À la façon des bonimenteurs, je pourrais vous raconter le programme. Mesdames et messieurs, venez voir la guincheuse du Soudan, le fakir pâle, les dompteuses d'hommes, des roses et poupettes, et venez écouter la diseuse extraordinaire, Lucie de Maille, fine voix d'étoile. Mesdames et messieurs, une soirée unique, rien que pour vous.
Pascal Paradou.
Début du siècle, le 20e, un cabaret, ambiance interlope, une diseuse qui est aussi une croqueuse d'hommes. Telle est la trame du nouveau roman de Nicolas Richard, La chanteuse aux trois maris. Bonjour Nicolas Richard.
Bonjour.
Écrivain et traducteur, est-ce que ce sont les deux faces du même métier ?
Il y a plein de points communs en fait. Et je me rends compte que plus je traduis, plus j'ai envie de lire. Et plus je lis des bouquins passionnants, plus ça nourrit mon envie de traduire. Je ne sais pas si c'est les deux faces d'une même pièce, mais en tout cas, il y a plein de convergences. Il y a une sorte de cercle vertueux, il me semble. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne.
Quel a été le premier geste ? Celui d'écrire ou celui de traduire ?
Non, celui d'écrire. Depuis vraiment tout gamin, j'écris, j'ai envie d'écrire.
Dans les deux cas, en tout cas, c'est fabriquer des phrases et c'est fabriquer des mondes.
Alors la grosse différence quand même, là maintenant que je réfléchis un tout petit peu à la première question, je vais peut-être fonctionner toujours comme ça avec un cran de décalage. Quand je traduis, je m'intéresse effectivement aux phrases, j'essaie de les faire sonner. Quand j'écris, en revanche, j'ai un souci de plus, en plus de celui-là, c'est quand même de bâtir une intrigue cohérente. Et avec La chanteuse aux trois maris, ça a été vraiment mon souci d'arriver à élaborer une structure qui tienne.
Et si on parle de plaisir, on parlera du roman après. Où est votre plaisir ?
Oh, dans les deux, vraiment.
Les
deux activités m'amusent. Quand je traduis, la chronologie ou l'objectif est quand même plus net. Je grignote des pages, j'avance sur un livre. Quand j'écris, je peux me retrouver au bout de plusieurs semaines à tout mettre à la poubelle, donc le sentier est moins tracé, disons.
Oui, c'est mais plus angoissant peut-être aussi, non ?
Non, c'est pas, vraiment pour moi, c'est un... j'adore en fait.
Donc il faut dire, Nicolas Richard, que vous avez traduit un peu plus de 130 livres d'auteurs anglais ou américains essentiellement, très contemporains, mais avec ce roman, La chanteuse aux trois maris, autre temps, autre lieu, ce sont les années 20, Paris. Et puis, ça bouge un peu, Dakar et Buenos Aires. C'est l'art du contre-pied ?
Alors, ça ne s'est pas posé en ces termes. La question, c'est que je suis parti d'une enquête généalogique concernant ma propre famille. En particulier, il s'agit de la génération au-dessus de celle de ma grand-mère, donc mes arrière-grands-parents, au sens large. Et donc, j'ai tiré les fils, en fait. Et il se trouve que, voilà, le père de ma grand-mère était effectivement médecin et s'est retrouvé à travailler jeune médecin en Afrique, sur les rives du fleuve Niger. Une de ses femmes a été chanteuse de music hall. Et la mère de ma grand-mère s'est retrouvée à partir, quand sa fillette avait 2 ans et demi, à partir pour Montevideo puis Buenos Aires.
Alors, dans ce roman, le personnage principal est donc Emma, qui est une chanteuse, une diseuse, sous le nom de scène de Lucie de Maille. Et pas de chance, tous ses maris meurent très vite après la noce. C'est le cas de la grande tante ou de la grand-mère, non ? L'arrière-grand-mère ?
Alors, bon, c'est là où la fiction prend la relève, mais de fait... Quand même. De fait, la femme dont j'ai à peine travesti le nom, Emma la chanteuse, le nom d'artiste, je l'ai à peine travesti par rapport à la réalité, a effectivement eu à cette période-là 3 maris qui, effectivement, sont tous morts de mort violente. Alors, pas nécessairement dans la façon dont je le décris, mais il y a eu quand même cet événement de plus que j'ai trouvé incroyablement romanesque avant même de commencer à écrire.
Mais elle les a tués ou pas ?
Ben c'est ça toute la question.
Alors, cette enquête dans votre roman est racontée par Jeanne, qui est donc la petite fille, mais elle l'a fait depuis sa maison de retraite. Elle a 84 ans. Donc, en fait, c'est pas tant un enjeu de vérité que de mémoire. Elle veut se souvenir, elle veut essayer de recomposer le puzzle.
C'est ça. En fait, la question qu'elle se pose, elle se dit, cette femme quand j'étais petite, j'ai tellement aimé cette chanteuse, Emma. Elle était tellement gentille et elle m'a vraiment appris la vie. On en reparlera peut-être après, mais c'est avec son art de composer des chansons qu'elle a permis à la fillette Jeanne de dire « je », en fait. Et est-ce que c'est possible que cette femme qui était presque ma maman, qui m'a tant plu, est-il possible qu'elle ait été la meurtrière de ses trois maris? Et donc, il y a une sorte de compétition entre ses sentiments, ses sensations très fortes qu'elle a eues d'amour pour cette femme, et avec la maturité, avec le recul, de se dire, mais en fait, il y a quand même beaucoup d'éléments qui plaident en faveur d'une meurtrière. Voilà, c'est ça en fait un peu l'enjeu du roman.
Donc c'est un faux polar. Ça prend les airs d'un polar, mais ça n'en est pas un.
C'est un enjeu de fiction, je pense que c'est en fait. Enjeu de fiction, mais je pense qu'il y a réellement une enquête de type polar. Mais peut-être des polars... je pense à un auteur allemand qui s'appelle Bernhard Schlink, par exemple, qui m'impressionne beaucoup et qui fait des enquêtes. Alors, je sais pas si elles sont aussi relativement policières. C'est lui qui a écrit Le Liseur, c'est lui qui a écrit Brouillard à Mannheim. Son dernier roman s'appelle La Petite Fille. Et en fait, ce sont des romans à intrigue, à combustion lente, on pourrait dire. Et un de mes matériaux, ça a peut-être été aussi d'essayer de rendre compte de la façon dont le temps passe. Comment dans un roman, on fait sentir le passage du temps et de quels outils on dispose en fait pour raconter ces choses-là.
Nicolas Richard, de l'art du récit en 300 pages ou en 3 minutes, autrement dit en chanson, un artiste sans frontières, Paris, New York, Yaoundé, c'est Richard Bonnat avec ce nouveau titre, Il y avait quoi avant ? Il n'y a rien qui marche, je ne peux pas vous tromper. Il n'y a rien. Il y avait quoi avant? 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 Il y avait quoi avant?
Il y avait quoi avant?
Il y avait quoi avant?
Il y avait
quoi avant?
Son goût n'a été qu'un pas.
Il y avait quoi avant? On avait Cameroun Airlines.
Yeah, combi.
La régie faire cam.
Come and go.
Saut des carreaux dans l'eau.
Wopalo.
La sonnelle est partie.
Chez nous.
Fonader, on a mis à terre.
McDo.
Kamchi avec roi bateau.
Que quoi?
Aujourd'hui c'est dans l'eau.
Hey.
Sophie Belle, Nina Bellabo.
Subhanallah.
Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant?
Mamaï.
On avait sauté que c'est cadu. Une alors on n'allume plus.
Ça chauffe plus.
Roi d'auteur, c'est le couvre-feu.
Là alors.
Les enseignants sont matés.
Ah, ça.
Qui a brûlé la sonara?
Hey.
Soudain Kamo en Konjok. Soudain Blé en Gandere. Et la CNTS fait la muette.
Woko woko woko, mon ninja va parler.
Kambala kumoyen,
woba
kumoyen.
42 ans au pouvoir,
oyaya.
Plus jamais ça,
oyaya.
42 ans de misère,
oyaya.
Nous voulons plus,
oyaya.
Les fontaines publiques étaient là,
oyaya.
Maman, on avait ça.
Oh, yeah, yeah.
À 25 francs, je prends son duc.
Oh, yeah, yeah.
Maman, c'était le prix.
Oh, yeah, yeah.
Waco, co, co, co.
Oh, yeah, yeah.
Mm-mm, je vais parler.
Oh, yeah, yeah.
Il n'y avait pas besoin de tribaliser.
Oh, yeah, yeah.
Même pas d'ératiser.
Oh, yeah, yeah.
La CNIE, on avait ça.
Oh, yeah, yeah.
C'est pas comme maintenant.
Oh, yeah, yeah.
Avec Pakako et Wunabwe.
Oh, yeah, yeah.
Woko, unagoye. N'allez pas au nozo ninjadi. Vous vous êtes entêté. Oyanga zo gwanza na kibalade. Okake makoro nisike.
Richard Bonnat sur RFI, y avait quoi avant? Et toute ressemblance avec des personnages existants n'est bien sûr pas du tout fortuite. Nicolas Richard, la chanteuse aux trois maris, est donc votre arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, ou à peu près celle dont les trois maris. Arrière-grand-mère, celle dont les trois maris disparaissent, meurent violemment. Donc, ça, c'est l'aspect familial, c'est l'aspect autobiographique, en tout cas de la famille. Quelle est la part de fiction ? Parce qu'on est, avec votre livre, vraiment dans un univers très particulier. Et je faisais le bonimenteur au tout début de l'émission. Mais il y a tous les noms de cette époque-là qui sont assez propices à la rêverie quand même. Aujourd'hui, la diseuse, la guincheuse du Soudan, le fakir pâle, les dompteuses d'hommes. Enfin, ça peut faire rêver.
Ah oui, non, ça fait totalement rêver. Ce monde du music-hall qui n'est pas très loin d'une science du merveilleux aussi à cette époque-là. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, plus je m'enfonçais dans les recherches documentaires, plus je me disais qu'il y a quand même un écho avec la période qu'on vit, indirectement, c'est-à-dire qu'en nettoyant le vocabulaire, c'est-à-dire en ayant l'impression de se plonger dans des mots anciens qui ramènent à des éléments du passé complètement oubliés, finalement, ça, paradoxalement, ça permet de jeter un éclairage net sur, peut-être plus net sur ce qui se passe aujourd'hui. En fait, nos divertissements, par exemple, la chanson, la pop musique, parce que finalement, le personnage de la chanteuse, il est important dans le sens où elle fait des spectacles qui sont décrits, mais aussi, vu par les yeux de sa fille adoptive, disons, elle l'aide à s'émanciper. Elle l'aide à trouver ses propres mots. Et la petite fille voit en direct comment se composent les chansons. Et ce processus-là, il est complètement actuel. C'est-à-dire que quel est le matériau qu'utilisent les artistes, les chanteurs, les chanteuses, les songwriters, comme on dit. Et quel est le processus qui fait qu'à partir de sa vie ou d'éléments du quotidien, on crée une œuvre qu'on va faire tenir par une mélodie. Et c'est cette sorte d'alchimie, là, qui, pour le coup, vraiment traverse les décennies et qui est tout à fait pertinente aujourd'hui. Et donc, cette petite fille qui assiste à cette chanteuse qui crée, comme ça, en direct, des chansons, elle se dit « Ah, mais c'est ça, le langage ?» Et c'est comme ça qu'on raconte les histoires, et c'est comme ça qu'on se raconte. Et donc, évidemment, c'est un peu une métaphore du roman lui-même, c'est-à-dire qu'en utilisant des éléments de la réalité, on les réagence, on les remodèle, et en fait, on s'explique soi-même.
Et ainsi, Jeanne devient écrivain.
C'est ça.
Et on lui dit que Jeanne commence par « je », J-E.
Et il y a aussi le radical Jean, qui est le nom de son père.
Il y a quand même dans ce roman toute cette dimension, ce personnage de Emma, mais il y a aussi quand même tout le folklore. Ouais. Il y a le prestidigitateur, Achille, le lanceur de couteau, la chanteuse Mona Gambette, etc.
Du Soudan.
La guincheuse du Soudan. Et d'ailleurs, les meurtres sont un peu racontés comme des tours de passe-passe dans votre roman. Pour preuve, on ne sait vraiment ce qui s'est passé qu'à l'extrême fin dans l'épilogue.
Alors, je vais essayer de pas trop en dire quand même, parce que l'extrême fin dans l'épilogue, c'est la narratrice, donc Jeanne, qui est une femme de 84 ans, qui se dit « Mais en fait, le plus important pour moi, c'est les souvenirs que ces gens-là et ces choses-là m'ont laissés. »
Donc, il y a le monde de l'époque, que vous savez recréer parfaitement. Il y a cette dimension aussi assez cosmopolite, puisque l'histoire se déplace, pour les besoins du récit, de Dakar et de Montevideo. Dakar, où elle fait une tournée en Afrique. Emma, elle va avoir un ranch.
Elle s'installe, en fait. C'est un ranch qui... Donc, elle loue des chevaux à l'armée. Et parallèlement, c'est un lieu de spectacle le samedi soir où ont lieu des concerts.
Qui a existé ?
Non, mais le haras a vraiment existé et la chanteuse a véritablement, ça fait partie des autres éléments romanesques complètement dingues mais avérés, effectivement la chanteuse, donc mon arrière-grand-mère si on veut, a littéralement en fin de carrière monté un ranch à Dakar.
Alors vous racontez cette période, vous racontez aussi 1920-1930 la colonisation. Parce qu'on est en pleine période de l'exploitation intensive des matières premières du continent. Et là d'ailleurs le roman peut se faire très virulent.
Ben oui, ben alors ça, voilà, c'est sans doute un effet de mon activité de traducteur, enfin une conséquence. Mais quand je ne sais pas, j'aime bien essayer de me renseigner et j'aime bien les recherches en archives ou les recherches en bibliothèque. Et donc là, je suis parti de cet élément. Un jeune médecin de Toulouse, dans les années 20, jeune diplômé, se retrouve à exercer à Diré. Et dans quel contexte travaillait-il ? Moi, j'avais une image un petit peu d'Épinal en me disant ben, il doit venir en aide aux populations locales. En réalité, il bossait pour une société esclavagiste d'exploitation du coton avec des deniers publics. Et donc là, je suis tombé sur une thèse absolument fascinante où étaient décrites les conditions de travail de l'époque. Et là, je suis tombé des nues, en fait. Donc, effectivement, j'ai essayé de rendre compte de ça. Les conditions de travail étaient littéralement insupportables. Et donc, voilà, oui, ça a été aussi le... C'est pas tellement le prétexte, mais en tout cas, une remise en contexte qui m'a paru opportune.
Nicolas Richard, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre roman. C'est dans l'épilogue, mais on a compris, ce n'est pas forcément la résolution des meurtres qui compte le plus dans ce livre, La chanteuse aux trois maris.
Alors, donc c'est le chapitre 10 de l'épilogue. 1926. Dakar. Les chevaux hennissent et j'entends la musique au loin après ton concert, Emma. Et je comprends petit à petit que l'amour, en circulant dans cet arbre généalogique aux trop nombreuses circonvolutions, présente beaucoup d'inconvénients. Il est limité dans le temps, peu prévisible, jamais réciproque, rarement équilibré. Je visualisais une enquête policière comme dans New York Unité Spéciale. Des noms reliés par des flèches sur un grand tableau permettant une inexorable résolution, une réponse au mystère des morts brutales de tes maris, Emma. À la place, je me retrouve face à un tableau d'une nature bien différente. Des noms y sont associés, mais par des flèches en pointillés, souvent à sens unique, et dans un présent éternel. L'amour engendre au moins trois choses, la jalousie, la mort et la chanson. Je ne te connais pas encore, Emma, mais je t'aime déjà, puis je te rencontre et je t'aime encore plus, puis je te soupçonne et je t'aime toujours autant.
Il y a, dans le passage que vous venez de lire, un mot en italique, c'est le mot équilibré. Pourquoi, et ce n'est pas le seul mot du roman, pourquoi mettre ces mots en italique ?
Alors, en l'occurrence, équilibré, ça fait allusion à un des personnages du roman qui s'appelle Émile, qui lui est parti à la guerre et qui en est revenu accro à l'héroïne, parce que c'était un des rares médicaments qu'on faisait circuler dans les tranchées. Et il a une dague, il a un couteau dont il est très fier, et c'est un gimmick qui revient plusieurs fois dans le roman. Il est fier parce que sa dague est équilibrée. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à ce personnage. Quand je les mets en italique, en général, les termes, c'est, voilà, c'est qu'ils sont, pour ainsi dire, des sources d'écho avec d'autres passages du texte.
Donc, il faut y faire attention.
Voilà,
ce sont des entrées possibles.
Exactement.
Il y a aussi beaucoup d'expressions populaires qui sont en italique hein, dans le roman. Il n'y a pas que équilibré et quelques noms propres. Dans votre actualité, en tout cas, Nicolas Richard, il y a aussi la traduction de plusieurs livres, dont la traduction du roman posthume de Leonard Cohen, Un ballet de lépreux. C'est un roman qui se passe à Montréal. Et tiens, là aussi, c'est une histoire entre un homme et son grand-père. Hasard.
Ah oui. Oui, c'est vrai. Bah, oui, là, vraiment, c'est le hasard, là.
Leonard Cohen, romancier et chanteur anglophone, donc, mais qui parlait et chantait parfois en français.
Quand on essaie de parler français à Montréal, à Québec, ça c'est un acte politique.
Maintenant, en 1985.
Encore maintenant. Ça change un peu. C'est pas comme il y a 5 ou 7 ans ou 10 ans. Mais même maintenant, quand j'essayais de parler français, je parle très mauvais. Je le sens, ça c'est un fait politique. Et ça me fait de peur. En Europe, je peux parler beaucoup plus facilement. Mais chez moi, c'est un peu difficile. J'essaie.
Je veux vivre tout seul. Libre comme un oiseau sur son fil. Sans femme, sans famille, sans amis.
Nicolas Richard, vous retrouvez la patte du chanteur Leonard Cohen dans son roman Un ballet de lépreux ?
Oui, d'une certaine manière. Un ballet de lépreux, il l'écrit en 58, il me semble, donc avant même d'être chanteur. Donc c'est presque le matériau en gestation dans lequel il puisera ultérieurement pour composer ses chansons.
Donc quand je dis un roman posthume, c'est sa traduction qui est posthume. Le roman non, a été non, publié
non,
à l'époque.
Non, vous avez tout à fait raison de dire un roman posthume parce qu'il est sorti après sa mort. En revanche, il a été écrit en 1958 et n'a pas été publié, même pas en langue anglaise, pendant tout ce temps. Ce qui demeure quand même un mystère. D'autant que le roman est absolument étonnant, coup de poing très intense. J'en recommande la lecture, hein. C'est vraiment un roman court, extrêmement fort. Mais c'était le Leonard Cohen qui avait 25 ans, je crois à peu près, à quelques années près, pas encore chanteur.
Alors vous traduisez Leonard Cohen, mais vous avez aussi traduit Bob Dylan, Patti Smith, Nick Cave, Springsteen. C'est votre côté rock'n'roll ?
Bah oui, non, mais je ne vais pas le nier. Il y a un côté rock'n'roll.
Pourquoi le nier ?
Voilà, non, je l'assume tout à fait. Même si entre le discours que prononce Bob Dylan pour le prix Nobel et puis le roman qu'écrit Nick Cave, il n'y a quand même pas beaucoup de points communs. Mais oui, j'assume.
Il n'y a pas une pulsion, une pulsation, une musique particulière de ces auteurs qui sont des grands rockers ou des grands musiciens ?
C'est vraiment difficile de dire une vérité commune à tous les gens que vous venez de citer. Par exemple, j'ai traduit l'autobiographie de Bruce Springsteen, qui est absolument passionnante, et où on retrouve effectivement la vivacité du bonhomme, mais on entend, et il ne s'en cache pas, qu'il y a 15 ou 20 ans de psychanalyse derrière. Et ça aussi, ça fait partie, voilà, ça permet à l'écriture de s'affiner, je pense.
Vous traduisez des chansons ? Ça vous est arrivé ? Ou vous en écrivez ?
Non, j'en écris pas. Oui, ça m'est arrivé d'en traduire. Il y a un moment donné, avant de traduire vraiment que de la littérature, je travaillais pour des maisons de disques, comme ça en pointillé, et donc il m'arrivait de traduire des chansons. Je me souviens quand, juste avant la sortie du premier Eminem, le rappeur, il avait fallu que je traduise la totalité de son album pour que les journalistes sachent de quoi il s'agissait. Moi, là où je suis bien, là où je suis à l'aise, c'est quand même la traduction d'un roman. Ou à la limite, l'écriture ou la traduction, mais sur le temps d'un roman.
Donc, il vous faut la distance, il vous faut le temps. C'est trop bref, une chanson.
Bah, c'est vrai que j'aime bien cette distance. J'aime bien partir pour plusieurs mois et avoir le temps de relire, le temps de laisser mûrir. C'est le timing qui me correspond mieux.
À l'inverse donc de Lucie Bouteloup, qui toutes les semaines vient dans l'émission pour nous raconter juste un mot ou une expression. C'est la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Aujourd'hui, vous êtes resté accroché au beffroi qui est le symbole de toutes les villes du Nord.
Oui, absolument. Et si ça vous goûte aujourd'hui, eh bien on va revenir sur quelques expressions du schnorr. Donc, avec moi en studio Alain Dawson, on commence donc par arranger les bidons. C'est quoi les bidons, Pascal ?
Les bidons, c'est les bidons.
Bon, on va voir ça dans quelques instants. Mais avant, comme d'habitude, je vous propose d'écouter les propositions.
Des minots.
Pour moi, arranger les bidons, ça veut dire, par exemple, arranger les plannings.
Arranger les bidons, c'est arranger les embrouilles. Parce que pour moi, quand on doit arranger quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà.
Les bidons, ils vont être mieux rangés. Les plannings vont être arrangés. Ils vont être plus exploitables.
La phrase arranger les bidons, pour moi, je pense que ça voudrait dire arranger les problèmes ou les problèmes qui se passent entre plusieurs personnes.
Alors pour moi, arranger les bidons, c'est se remplir l'estomac. Parce que bidon, c'est une abréviation du mot ventre. Et du coup, quand on arrange les bidons, c'est que on soulage sa faim.
La puce à l'oreille.
Bonjour Alain Dawson.
Bonjour.
Alors une réaction peut-être à ce micro-trottoir. Qu'est-ce que vous pensez des propositions des enfants ? Ils sont dans le vrai ou pas ?
C'est intéressant qu'il y a deux interprétations qui sont données. Hein. L'une qui est celle que je connais, hein, c'est-à-dire arranger les affaires en effet. Et puis l'autre qui montre que cette première interprétation n'est pas reconnue, c'est contenter sa faim en quelque sorte. Hein,
Qu'est-ce que c'est que les bidons alors ?
Les bidons, c'est la vaisselle hein, simplement, hein. C'est la batterie de cuisine. Donc arranger les bidons, c'est arranger les choses, mettre un petit peu d'ordre dans une embrouille qu'il y a eu. Enfin, c'est des choses comme ça.
Et donc, quel rapport entre la vaisselle et le fait d'arranger les choses ?
Je pense que c'est une image qui vient de la vie ménagère, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va répondre à un conflit, par exemple, de la même manière qu'on va remettre de l'ordre dans sa cuisine. Mais je pense que c'est simplement ça.
Alors comment on dirait au contraire quand on parle d'une embrouille? On arrange dans les bidons et à l'inverse?
À l'inverse, quand on est dans le Nord, on peut dire qu'on fout le brin. Voilà, alors ça c'est un petit peu vulgaire, puisque le brin c'est la matière fécale, quoi. Hein.
Ah.
Voilà, quand on dit
on
du brin...
la merde.
C'est... Voilà, j'osais pas le dire, mais c'est ça.
Bon alors, je sais que vous êtes à la presse, mais j'aimerais qu'on profite d'un créneau entre les midis, peut-être pour parler météo. Alors, est-ce que vous pouvez me faire une petite traduction de la phrase que je viens de vous dire ? Être à la presse.
Alors, être à la presse, c'est être pressé. Et puis, entre les midis, c'est une manière de dire entre midi et deux. Donc, effectivement, c'est une expression qui est courante du côté de Valenciennes.
Alors, en ce moment, donc, il drache pas mal. Hein. Je vous disais qu'on allait parler météo. Qu'est-ce que ça veut dire, dracher ?
Dracher, c'est pleuvoir très fort. Une drache, c'est une averse. C'est un mot qui vient du flamand de Belgique et qui a passé la frontière, comme beaucoup d'autres mots d'ailleurs flamands qui sont arrivés dans le nord de la France. Et c'est utilisé très couramment dans le nord. Et paraît-il, maintenant, ça se répand partout en France. Donc on peut dire qu'il drache, par exemple, à Marseille.
Mais... Alors par contre, il y a une expression qu'on n'utilise pas trop dans le coin. Quand on dit ras-le-bol de ce printemps qui vient pas parce qu'il fait cru, qu'est-ce que c'est cru?
Ah, il fait cru, ça veut dire qu'il fait humide. Effectivement, cru, le mot a gardé un sens ancien en français, hein, qui est l'humidité. On peut dire aussi qu'il fait frec. Là, c'est plus un terme picard que français régional. Il y a des mots picards comme alors crudité pour dire l'humidité ou frectum.
Bon, en tout cas, avec ce temps, si ça continue, on va tous finir par avoir la niflette.
Oui, alors ça, c'est possible qu'on attrape la niflette, en effet.
Qu'est-ce que c'est
ça,
la niflette?
Alors, ça, c'est le fait de renifler, hein, donc c'est un rhume.
Donc, il va falloir se mouquer.
Oui, alors ça, se mouquer, on va l'utiliser en picard. Mais par contre, le terme mouquille, qui en est dérivé, lui, est courant en français régional. Il désigne la morve.
Bon, il pleut tellement qu'on va devoir aller chez un marchand de loques pour acheter une oissingue.
Oui, bah oui, le marchand de loques. Alors, les loques, c'est toutes sortes de chiffons ou éventuellement d'habits. Et puis une oissingue, ah, c'est un mot très emblématique du Nord, ça, pour désigner la serpillière.
Merci Alain Dawson de ce petit tour d'horizon des expressions du Nord. Avec vous, j'ai fait le coup. Qu'est-ce que ça veut dire?
Vous n'avez pas fait une mauvaise action, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Oui, j'ai pas fait de mauvais coup.
Par rapport
j'ai
au...
fait le coup.
Oui, oui, vous avez fait le coup. Faire le coup, bah, c'est
j'ai
faire
fait une affaire.
Une bonne affaire, une bonne occasion, absolument.
Bon, toutes ces expressions, les auditeurs peuvent les retrouver dans Le Nord et la Picardie, ça se dit comme ça. Un ouvrage édité au Robert. Merci encore et à l'occasion, donc.
Bah oui, à l'occasion.
Dawson.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Merci Lucie. Des expressions très populaires ou très typique, Nicolas Richard, est-ce que c'est un casse-tête pour un traducteur?
Bah moi, quand j'entends casse-tête, j'entends énigme et j'entends jeu et ludique et ça m'amuse. Donc, d'emblée, ça pique ma curiosité et d'emblée, de toute façon, à l'arrivée, il faut que je trouve une solution en tant que traducteur. Je ne peux pas laisser un blanc. Je dois faire, c'est un dialogue avec moi-même, je dois me faire des propositions et des contre-propositions jusqu'à trouver la solution qui sera optimale. Et là, c'est pas un dialogue complètement solitaire, parce que ça fait partie de ces séquences où je vais tarabuster mon entourage, où je sollicite des gens éventuellement à l'autre bout du monde par mail ou par téléphone. Oui, je cherche, mais j'adore cette phase de... voilà de.
Et vous pouvez inventer une nouvelle formule, une nouvelle expression?
Bah non, mais ça si la formule en anglais est entièrement inventée, vient de nulle part. Dans ce cas-là, je me sens les coudées franches pour en inventer une en français. Si c'est une expression anglaise ou canadienne ou américaine du fin fond du Texas que j'ai jamais entendue mais qui est utilisée, bah je vais les éléments que je viens de vous donner vont me servir de contrainte en un certain sens pour essayer de trouver une solution qui colle.
Merci Nicolas Richard. Trois livres à lire, même votre roman La chanteuse aux trois maris aux éditions Inculte. Votre traduction du roman de Leonard Cohen, Un ballet de lépreux, c'est au seuil. Mais aussi Kaddish de Allen Ginsberg chez Bourgois. Merci beaucoup de vive voix. Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. À demain.